Mauriac, dans son livre sur le général de Gaulle, toute politique humaine échoue.
Pardon ?
Toute politique humaine échoue. François Mauriac, dans son livre sur le général de Gaulle. Le général de Gaulle qui disait aussi, j'aime beaucoup le populo. Tu dois le savoir, cette formule.
Oui. Cela dit, le général de Gaulle ajoutait aussi qu'une dictature se terminait toujours mal. Puis par ailleurs, le général de Gaulle pouvait avoir un petit point commun avec les populistes et le contact direct avec le peuple, bien sûr, ou l'usage du référendum. Néanmoins, il a créé le Conseil constitutionnel, même s'il n'en a pas fait beaucoup usage de son temps. Il a fallu que Valéry Giscard d'Estaing donne à l'opposition le droit de saisir le Conseil constitutionnel et que Nicolas Sarkozy ajoute le droit pour tout citoyen de le saisir. Mais également, évidemment, le général de Gaulle ne s'adresse pas au peuple pour le flatter, encore moins pour faire de la démagogie ou autre. Il peut lui arriver de mentir comme tout homme politique, mais certainement pas de tomber dans la flatterie ou la démagogie. Et d'ailleurs, même s'il a inventé les bains de foule, en France, il a été quand même assez distant envers le peuple et ne cachait pas parfois que les Français l'intéressaient beaucoup moins que la France et n'était pas toujours à la hauteur, que le peuple français n'était pas toujours à la hauteur de ce qu'il aurait dû être pour la France. Mais si jamais la médiocrité vient à régner, j'en accuse non pas le génie de la patrie, mais les fautes des Français. Là-dessus, effectivement, c'est pas tout à fait le populiste. On est bien d'abord dans le nationalisme, un nationalisme par ailleurs très ouvert. Hein. Évidemment, le général de Gaulle n'aurait jamais non seulement consenti à tomber dans la vulgarité, même en privé, mais ne cherchait pas à désigner des cibles, des boucs émissaires, et restait malgré tout relativement ouvert sur les autres. Bien sûr.
Quand on t'a écouté, je reste très pessimiste.
Pardon ?
Je suis très pessimiste après avoir écouté. Je dis naturellement, mais là, c'est vrai que. Quelle issue ? Comment ? C'est Victor Hugo qui dit la démocratie, il n'y a pas de démocratie sans éducation.
Alors, ça se vérifie en partie, évidemment. La formule est de... Oui. Évidemment, personne n'en déduit qu'il faut évidemment enlever le droit de vote aux non-diplômés ou à ceux qui ont été en échec scolaire. Mais c'est vrai qu'effectivement, on voit que la différence de taux d'éducation joue un très grand rôle dans les comportements et les votes populistes. Ça, c'est indéniable.
Eh bien, moi, monsieur, je suis savoyard et j'admire beaucoup mes voisins suisses parce qu'ils manœuvrent le référendum, mais le référendum n'est pas décisionnel pour qu'on applique le référendum. Il faut le vote du Parlement. Et ça fait 800 ans qu'ils vivent ce système-là, je crois. Voilà. Et ils n'ont jamais eu de guerre, ils sont prospères, etc. Alors bon, peut-être qu'ils veulent pas trop d'immigrés, il y a des problèmes encore, enfin comme ça. Mais j'admire l'histoire de mes voisins suisses.
Oui, il y a beaucoup de choses admirables en Suisse, bien entendu. Puis bon, Jacques Rousseau était suisse lui-même, peut-être que ça peut expliquer en partie son goût de la démocratie directe. Cela étant aussi, ce qu'on peut rajouter, c'est que beaucoup de référendums en Suisse sont surtout des sujets locaux, d'une part. D'autre part, effectivement, comme vous dites, il y a quand même toujours le Parlement qui doit vérifier derrière. Alors, remarquez qu'en Grande-Bretagne, officiellement, le référendum, déjà qu'il est très rare, même le référendum sur le Brexit, officiellement, n'avait pas de valeur légale et contraignante. Cela dit, le Parlement pouvait quand même difficilement aller contre un vœu explicite de la majorité du corps électoral. D'autre part, dans le cas suisse, évidemment, il y a quand même certaines précautions. D'une part, si je me rappelle bien, on ne peut pas poser la même question à... deux fois de suite avant un intervalle de 20 ans. Ça évite évidemment qu'on fasse revoter le peuple sans arrêt jusqu'à ce qu'il donne la bonne réponse, ce qui a parfois été le défaut à d'autres référendums, notamment européens. Et d'autre part, il me semble que certains sujets sont par précaution exclus du champ du référendum, parce que notamment, enfin, comme dans la plupart des pays du monde, par exemple, les questions de fiscalité sont généralement exclues du champ référendaire. Parce qu'évidemment, on comprend bien ce qui se passerait si un démagogue proposait de mettre à référendum, de diminuer de 50% les impôts ou de 30% les dépenses. Évidemment, l'État et les services publics s'effondreraient. C'est ce qui a failli se passer en Californie à la fin des années 70, quand on a voté le référendum, je ne sais plus si c'était l'initiative 13 ou je ne sais plus quoi. Est-ce que vous êtes d'accord pour baisser les impôts de X%? Ça expliquait ensuite comment les services publics et autres et l'État de Californie allaient se financer. C'est pour ça que les champs du référendum, dans la plupart des constitutions, sont quand même relativement encadrés. Il me semble qu'en Suisse, il y a aussi des précautions. Par ailleurs, effectivement, la Suisse est neutre depuis quelques siècles, bien qu'elle ait été un des États les plus guerriers d'Europe. Au Moyen-Âge, bon, les montagnards sont généralement guerriers et fiers de leur indépendance. Et cela étant, par exemple, évidemment, ça ne met personne à l'abri, non seulement de faire une erreur, mais aussi... de maintenir démocratiquement parfois des décisions qui ne le sont pas. On se rappelle qu'il y a un canton suisse qui a attendu 1990 pour donner le droit de vote aux femmes. Parce qu'effectivement, démocratiquement, le peuple au sens du corps social de ce canton décidait que seuls les adultes masculins pouvaient voter. C'était donc une décision démocratique du peuple, mais qui aboutissait finalement à exclure la moitié de la population de la plénitude de ses droits civiques. Naturellement, à côté de ça, la Suisse reste tout à fait évidemment appréciable. Et il y a toujours un décalage entre l'image que les populistes, notamment de droite, ont pu se faire de la Suisse, et la réalité, évidemment, de ces votations et autres référendums, hein, bien sûr. Il faut aussi prendre garde à l'instrumentalisation qui peut être faite du cas suisse et à la manière dont on l'imagine.
J'aurais deux questions, peut-être liées. La première, c'est que votre exposé, vous parlez des rapports du populisme et de la démocratie. Mmh. Vous avez évoqué la République, mais la République des États-Unis. Est-ce qu'on pourrait s'intéresser un petit peu au rapport entre le populisme et la République au sens français, qui est quand même un petit peu différent, me semble-t-il, de la République conçue aux États-Unis. Dans quel pourrait-il y avoir des rapports entre le populisme ou les populistes aujourd'hui et la République? Et la deuxième, mais qui me semble liée, l'idée de la République, me semble-t-il, est très liée à quand même le respect ou l'utilisation de la raison. Et est-ce qu'il n'y a pas, avec le postmodernisme, une remise en cause générale de la raison, sensibilité, les émotions, libération, qui finalement aurait permis aussi, d'une certaine manière, une remise en cause de la République et... finalement, l'ouverture au populiste.
Alors oui, pour la deuxième question, c'est certainement ça. Même s'il a pu parfois déboucher sur quelque chose d'irrationnel, le communisme se voulait quand même rationaliste et héritier, évidemment, d'une étude scientifique et autre. Même à sa manière, le nazisme se voulait pseudo-scientifique et prétendait s'appuyer sur des vérités scientifiques, sur la nation, la race, le sang, etc. Alors qu'à l'heure actuelle, effectivement, dans l'ensemble... ça n'est pas propre qu'au populisme, mais effectivement, il y a une exigence, comme j'ai dit, de prendre les ressentis pour des réalités, pour des faits, et de ne plus faire la distinction entre les deux. Il suffit que quelqu'un ressente quelque chose pour que ça soit considéré comme une vérité, ce qui évidemment est extrêmement dangereux, et surtout, c'est le ressenti de qui va primer sur celui de qui. Évidemment, s'il s'agit de tenir compte des ressentis des uns et des autres, d'accord, mais dans la réciprocité. Si c'est à sens unique et c'est « je t'impose mon ressenti, mais je me fiche du tien », ça, c'est parfois ce que j'appelle la compréhension à la Poutine, enfin, en relation internationale, c'est-à-dire « mon pays se sent encerclé, se sent en insécurité, etc., comprenez-le, d'accord, mais comprenez aussi pourquoi les Polonais, les Finlandais, les Baltes, etc., se sentent en insécurité. Ah non, pas question, vous devez me comprendre ». Et de toute façon, plus vous me comprendrez, plus j'apporterai d'autres exigences et d'autres ressentis. Puis à la fin, évidemment, je deviendrai votre maître. À un moment, on ne peut pas rassurer quelqu'un qui, de toute façon, veut votre servitude ou votre destruction, qui s'est fait de vous une idée dont il ne veut pas démordre. C'est aussi le problème de tout ce qu'on appelle les dissonances cognitives, les biais de confirmation. Là aussi, on a pu rationnellement analyser tous les biais de la raison, ou du raisonnement plutôt. C'est-à-dire voir comment chacun cherche dans l'information, mais aussi dans les faits en général, ce qu'il a décidé d'y trouver, ou ce qu'il a décidé, ce qu'il veut voir confirmer ce qu'il a déjà décidé de penser. Comment on peut se trouver avec des biais de confirmation, des dissonances cognitives, etc., avec évidemment tous les dangers que ça approche et qui vous enferme dans la mauvaise foi et dans l'inaptitude à recevoir le moindre raisonnement. De fait qu'à la fin, il n'y a plus que la force ou la violence qui soit possible. On ne discute pas avec un antivax, ça ne sert à rien. On ne discute pas avec un trumpiste, ça ne sert à rien. On ne discute pas avec un paranoïaque, ça ne sert à rien. Vous avez une parole qui est complètement fermée sur elle-même. Et à moins qu'il trouve son chemin de Damas, vous perdez votre temps. Alors évidemment, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous décrétez l'obligation, vous lui tournez le dos, vous lui cassez la figure. C'est les seules issues qui restent, et c'est évidemment très dangereux, dans tous les cas. À la fin, ça peut se terminer même en forme de guerre civile. Évidemment, la République a quand même été aussi inventée pour justement faire en sorte que les citoyens ne soient pas obligés de s'affronter dans les rues ou sur les barricades, mais pour qu'il y ait un ordre légal et constitutionnel permettant à chacun de s'exprimer, de rester libre entre deux scrutins et d'avoir la possibilité d'accéder au pouvoir légalement et librement la fois suivante. Alors qu'évidemment, au début, on se trouvait entre la République initialement... se trouvait dans l'embarras parce que elle rêvait d'une unité et d'une unanimité qui ne pouvait pas exister. Même le jour de la fête de la fédération, elle a été une illusion. Et elle était née parce qu'il y avait eu une partie du peuple, au sens une partie active du corps social, à renverser les gouvernements précédents. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, qui va être le peuple légitime ? Quand c'est les sans-culottes qui forcent à la convention à exclure les Girondins, c'est le peuple qui s'exprime, donc il est légitime, même si c'est quelques centaines ou quelques milliers de sans-culottes. Par contre, si c'est les paysans vendéens qui se révoltent, ils sont plus légitimes, c'est plus le peuple. Vous retrouvez la même chose avec tous les populistes. Hein, la légitimité du peuple, oui, mais ça dépend de qui on parle, et ça dépend de qui est dans la rue. Bon. Donc, évidemment, là, bien pour ça que la République est obligée de dire, peu importe qui est-ce qui crie le plus fort dans la rue, ce qui compte, c'est le résultat des urnes, puis les décisions du gouvernement élu et du Parlement élu. Évidemment, ça peut être insatisfaisant, mais c'est une nécessité aussi, si on ne veut pas se retrouver, évidemment, avec des situations dignes du 6 février 34 ou autres. D'autre part, effectivement, la République française a cette différence avec la République américaine. La République américaine, d'une part, c'est e pluribus unum, hein, unis dans la diversité. On admet parfaitement aux États-Unis qu'il y a 50 États, alors que le peuple français est un et indivisible. On admet parfaitement qu'il y a 30 ou 40 religions possibles. La France a été obligée d'inventer la laïcité parce que la configuration n'a absolument rien à voir. On admet parfaitement que chacun a le droit de défendre ses intérêts, y compris par les lobbies, alors qu'en France, la simple accusation d'être un lobbyiste est évidemment infamante. On admet la séparation des pouvoirs, quitte à ce que le président des États-Unis finisse par être complètement paralysé parfois, alors qu'en France, on rêve plutôt quand même que l'Assemblée ou le président de la République soit l'héritier du roi absolu, quelque part, qu'il puisse tout faire tout de suite et conformément à la volonté du peuple ou de la majorité dite le peuple. Et le fait est que dans le cas français, on a voulu, par universalisme, initialement nier la diversité interne du peuple, d'où le fait qu'il a fallu attendre très longtemps pour accepter l'alternance, on l'a encore vu en 1981. Et d'où le fait qu'il a fallu très longtemps pour admettre qu'il existait des catégories particulières qui avaient le droit d'exprimer des revendications spécifiques. C'est-à-dire, il a fallu très longtemps pour que la République admette que oui, il fallait s'occuper de l'émancipation des femmes, et pas se contenter d'un citoyen abstrait, universel, etc. Sauf qu'ensuite, il y a le risque de tomber dans l'excès inverse, qui est le communautarisme, qui est la remise en cause de la laïcité, y compris par certains de ceux qui sont ses gardiens historiques, et qui est la remise en cause, finalement, de l'unicité du peuple français et la réduction, comme je l'ai dit, à une collection de minorités, ce qui devient évidemment insatisfaisant et même dangereux. Effectivement, quand on prend aux États-Unis le gouvernement de Joe Biden, c'est assez fascinant. Bon, le président des États-Unis est lui-même catholique, donc il appartient à une minorité. Il n'y a eu que deux présidents catholiques, lui et Kennedy. Le ministre de l'Intérieur est une Amérindienne. Il y a un homosexuel au transport. Il y a un Afro-Américain ici, etc. Bon, c'est formidable. Toutes les minorités sont là. Il y a tout le monde. Il y a même des blancs protestants hétérosexuels. C'est formidable. Sauf qu'évidemment, ce genre de choses agit sur les populistes de droite. Quelle que soit sa légitimité, ça agit sur les populistes de droite comme le chiffon rouge sur les yeux du taureau. Et le retour de bâton, comme on dit, peut être extrêmement violent. Et malheureusement, finir par aboutir au contraire de ce qui était souhaité. Puisqu'on se retrouve à la fin avec, à la Maison-Blanche, quelqu'un qui a tenu sur les minorités, sur les femmes et autres, des propos parmi les plus terribles jamais entendus depuis les années 70. Alors certes, il n'a pas rétabli la ségrégation raciale ni quoi que ce soit, mais... En magouillant pour pouvoir nommer ses juges à la Cour suprême, il a quand même réussi à abolir, par exemple, ce qui d'ailleurs n'intéressait pas vraiment, la garantie constitutionnelle de l'avortement, et en attendant d'autres choses encore. Bref, on se retrouve avec l'effet inverse de ce qu'on recherche, donc il faut quand même en tenir compte aussi. Bref, là-dessus, à la rigueur, on peut penser que les États-Unis, grâce à leur système de contre-pouvoir, ont moins de risques de tomber effectivement dans une démocratie libérale définitive. Il faudrait quand même que le président des États-Unis ait avec lui non seulement son propre vice-président, ce qui n'a pas été le cas la dernière fois, mais la majorité du Congrès, au moins la majorité des gouverneurs, la majorité des maires des grandes villes, l'armée, la majorité des médias et autres, pour que les États-Unis deviennent à grande échelle une démocratie libérale. Et ce n'est pas encore le cas. Il faudrait qu'il y ait des dérives pratiquement au niveau de chaque État. De ce point de vue-là, les contre-pouvoirs américains protègent quand même en partie les États-Unis. Alors qu'en France, où c'est un peu à tout ou rien et où celui qui gagne la présidentielle et législative a quand même une très large marge de pouvoir, la transformation en démocratie libérale serait quand même beaucoup plus facile. Ce qui a été le cas, après tout, dans la plupart des pays d'Europe. Donc il faut quand même en tenir compte.
Moi, j'ai bien apprécié tout ce que vous avez dit, mais on a un peu sonné quand on a fini par entendre. Je ne sais pas si c'est le sentiment de... Moi, j'aurais un reproche, c'est que vous avez fait une présentation qui est, comment dire, ahistorique. C'est-à-dire qu'on passe carrément des Grecs à Rousseau, de Rousseau à Marx, on revient à Rousseau, on repart aux Grecs. Ceci dit, on fait abstraction de toutes les civilisations primitives qui existaient, qui avaient développé des formes d'organisation aussi, qui sont dignes d'intérêt. Et si on replace tout ça dans l'histoire, on est en train de discuter d'institutions. Et les institutions sont un produit de l'imaginaire humain, elles sont imparfaites. Donc les critiquer à la serpe, c'est à la limite l'exercice le plus simple, le plus facile à faire. Sauf que, si on prend notre époque actuelle, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des réponses. C'est ça la question. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des réponses. Et qui fixe les règles du jeu à l'heure actuelle? Si, parce que derrière, on voit bien que vers quoi tout le monde veut aller, c'est la démocratie dans ce qu'on imagine de plus performatif. Sauf que tout de suite, il y a un rapport de force à l'époque où je parle, qui peut être un petit peu résumé, comme Juncker, le président de la Commission européenne, disait, en dehors des traités, il n'y a pas de démocratie. Donc moi, la question que j'ai, munie tout ce que vous avez exposé, qui est à mon avis très intéressant, on fait quoi?
Alors, deux choses pour répondre un petit peu à tout ça. La phrase exacte de Jean-Claude Juncker, qui était certes très maladroite, c'était « il n'y a pas de démocratie qui vaille contre les traités européens ». Sauf que replacé dans le contexte, ce qu'elle signifie, c'est « un gouvernement est toujours lié par les traités signés précédemment, même en cas d'alternance ». C'est ce qu'on appelle la continuité de l'État, tout simplement. Sauf si le gouvernement en question décide de dénoncer les traités, comme le Royaume-Uni décidant de dénoncer les traités européens. Mais sinon, effectivement, même si quand il y a une alternance politique, quel que soit le programme du nouveau venu, il y a des traités, il y a des lois anciennes, il y a des accords internationaux anciens qui, tant qu'ils ne sont pas dénoncés, s'appliquent toujours à lui, que ça lui fasse plaisir ou pas. C'est le cas d'ailleurs avec tous les gouvernements du monde. Voilà, c'est ce que ça signifiait évidemment, même si la formulation était peut-être évitable. Ensuite, concernant la question des questions et des réponses, Pierre-André Taguieff disait ceci à propos de la fameuse formule de Laurent Fabius sur le Front National. Quand Laurent Fabius avait dit « il pose les bonnes questions et apporte les mauvaises réponses », Pierre-André Taguieff corrige en disant « le problème, c'est qu'en réalité, les populistes, en général, posent mal les questions et ils les posent d'une telle façon que le raisonnement ensuite est vicié ». Il apporte des réponses qui sont généralement insatisfaisantes, et en plus, dans l'intervalle, il ne favorise pas la réflexion sereine et objective en saturant le débat public de fake news, de complotisme, etc. Et souvent, le problème du populiste, quel qu'il soit, c'est qu'il peut prendre des problèmes réels, mais il les exagère, il les amplifie, ou il en a une vision en miroir déformant. Ce qui fait qu'à la fin, on a presque peur d'évoquer le problème, de peur de sembler cautionner la manière complètement déformée qui en est donnée. Même si contrairement aux idées reçues, non, on n'a pas laissé l'immigration aux populistes de droite quand on pense qu'on en est à la 117e loi sur l'immigration depuis 1945. Tous les 6 ou 12 mois, il y a un débat sur l'immigration, il y a un débat sur l'insécurité, il y a un débat sur la laïcité, etc. Ça n'a jamais cessé. Simplement, les réponses apportées ne feront jamais plaisir à ceux qui, de toute façon, feront toujours la surenchère et qui se forment une telle vision à des problèmes que, de toute façon, aucune solution rationnelle ne les satisfera jamais. Et d'autre part, inversement, il peut y avoir des populistes qui nient la réalité des problèmes, c'est vrai. Ils diabolisent l'existence de certains problèmes, voire ils l'inventent. Et inversement, il y a des problèmes réels qu'ils nient. Parfois, la vision populiste de gauche, c'est... Il n'y a aucun problème dans les banlieues, il y a juste des flics racistes, des laïcars islamophobes et des... Et, voilà, Et finalement, les problèmes posés n'existent pas. Il n'y a pas de problème de wokisme ou de cancel culture, c'est juste une invention d'extrême droite. Ben, malheureusement, ce n'est pas si simple que ça. Inversement, pour l'extrême droite, la question n'est pas simplement de savoir quel doit être exactement le statut ou la place de l'islam en France, c'est d'imaginer qu'il y a un complot des musulmans pour islamiser la France, ou qu'il y a un complot des élites et du patronat pour imposer au peuple un grand remplacement. Bon, évidemment, quand on parle de cette vision-là, c'est pas possible d'avoir un débat serein et objectif sur une politique migratoire. C'est vicié par avance. Donc, en fait, les questions sont mal posées et les réponses apportées sont ou trop simplistes, ou irréalistes, ou posant d'énormes problèmes moraux et juridiques. Et en plus, il n'y a même pas la certitude que ça fonctionne une fois si le populisme essaie de les appliquer. Même en matière d'immigration ou autre, les populistes de droite n'ont finalement pas tellement changé les choses, hein, que ce soit en Italie ou aux États-Unis. Donc, à bien des égards, eux-mêmes finissent parfois par constater que leurs propres solutions, ça ne fonctionne pas, et par les abandonner sans le dire. Donc, en la matière, on ne va pas trouver à leur place les solutions, évidemment.
Oui, moi, je suis sensible à toutes les critiques que vous avancez chaque fois que vous exposiez une position. Moi, j'ai trouvé ça fort intéressant, mais je me pose la question suivante, mais en partant de la conclusion, de la référence à Pascal, qui veut faire l'ange fait la bête. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas finalement, eu égard à ce qui pourrait être finalement une désillusion de la vie politique. Est-ce que ça pourrait pas être lié peut-être à ce qu'on a appelé quelquefois la sécularisation, c'est-à-dire l'idée que, depuis deux siècles, les hommes en Occident pensent que leur salut peut venir d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y aurait une solution politique qui permettrait de remplacer la question antérieure du salut. Quoi, hein. Je ne sais pas si je me fais...
Si, bien sûr.
C'est-à-dire comme si on n'accordait pas une importance peut-être excessive, non pas peut-être à la politique, mais au pouvoir de l'homme, de pouvoir réaliser finalement un monde qui serait pleinement satisfaisant.
Il y a bien sûr de ça, naturellement. L'homme a un besoin de croire et a un besoin effectivement de se sentir sauvé. Et le peuple a besoin de se sentir sauvé. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a parfois des points communs entre les populistes et les mystiques, si on veut. C'est la volonté d'avoir un rapport direct au ciel en contournant l'institution ecclésiale, voire en l'abolissant dans le cas du protestantisme. Ce n'est pas d'ailleurs forcément toujours rassurant, mais effectivement, ça contourne, le point commun est de contourner les institutions ou les intermédiaires, que ce soit le culte des saints et autres. Donc même en matière religieuse, la question se pose. Mais en matière politique, effectivement, l'homme ayant besoin de croire et surtout en période de crise, d'être rassuré, de trouver un sauveur ou un salut, effectivement, il y a eu les religions politiques du 19e, 20e siècle, la religion de l'humanité, disaient les révolutionnaires du 19e siècle, puisqu'on ne croit plus en Dieu, autant croire en la seule chose qui le mérite encore, l'humanité, d'où évidemment une vision quasiment religieuse du politique et aboutissant à des formes de guerre de religion politique. Avec leurs martyrs, avec parfois leur fanatisme et leur intolérance, leur vandalisme, mais aussi parfois leur figure de saint laïque. Et puis, au XXe siècle, on a souvent dit évidemment que les régimes totalitaires étaient des religions séculières, que le communisme était une religion séculière et la religion de ceux qui n'en avaient pas ou plus. Et puis, le populisme, évidemment, né du désenchantement des démocraties post-fin des grandes idéologies. Il propose un nouveau récit, certes beaucoup moins structuré que le précédent, mais il propose bien un homme providentiel. il propose bien un nouveau monde et il propose bien effectivement, il repose bien aussi en partie sur l'idée que tout est possible et qu'il n'y a aucune limite non seulement à la volonté du peuple si le peuple gagne, mais que bah, une fois élu, bah, vous allez voir ce que vous allez voir et tout va changer. Avec la constituante, on va repartir à zéro. Ça va être en quelque sorte la parousie, quoi. Puis ensuite, vous allez voir que on va aboutir finalement à une perfection séculière, avec le risque évidemment que ça entraîne aussi parfois pas que des mauvaises choses, mais aussi des dérives, y compris une forme d'intolérance quasi religieuse ou de foi quasiment religieuse, effectivement, dans l'homme et le mouvement populiste. Et bon, la fameuse phrase de Donald Trump, hein, même si je descendais sur la 5e avenue pour tuer quelqu'un au hasard, il y aurait encore 30% des Américains à croire en moi. Effectivement, on est dans le registre pratiquement de la foi quasiment religieuse et même du fanatisme. Et on le voit aussi avec, évidemment, les raisonnements complètement inaccessibles à la raison de pas mal de partisans des populismes, inaccessibles à tout argument rationnel ou scientifique, ou à tout fait. Et avec la différence, bah là on peut reprendre la fameuse phrase de François Furet sur le communisme, en l'appliquant au populiste, le croyant sait qu'il croit et le populiste croit qu'il sait. Il méprise ce qu'il appelle les sachants et qui détiennent un pouvoir d'expert ou de spécialiste, bon pas infaillible, mais enfin qui a quand même ses fondements. Et il se persuade que lui, il a le savoir parce qu'il est le peuple, et parce qu'il est en quelque sorte touché par la grâce. Tous les autres sont sont un ramassis d'incultes et d'imbéciles manipulés par les journalistes. Lui, au moins, il est dans la vérité. Effectivement, on se retrouve avec ce que j'appelais la mentalité de secte, une espèce de communauté de croyants et de martyrs, martyrs de la vérité et tout, et qui ont en quelque sorte la consolation d'être dans la vérité, même si les médias, le gouvernement, etc., les persécutent. Bon, quand on regarde effectivement certains anti-vax, c'est effectivement le langage de martyrs, et c'est un langage de secte, mais qui encore une fois aboutit non seulement à gâcher sa raison et à gâcher son âme, mais en plus à un gâchis politique, à un gâchis humain, parce qu'à la fin ça se termine par une hécatombe.
Dans le prolongement de ce qui est bien dit de la question, là, je suis vraiment chagriné d'un pays, c'est le Nicaragua. Voilà, les Sandinistes étaient venus à cette période-là. Moi, j'avais participé à des réunions, les Sandinistes étaient formidables, etc. L'église même là-bas s'était mouillée, puisque Jean-Paul II était allé les enculer de sortir les Sandinistes. Et ça avait été une espérance extraordinaire. Ben maintenant, c'est un couple qui a le pouvoir au Nicaragua. C'est incroyable. C'est un couple qui a tout le pouvoir, qui assassine, qui tue, qui expulse, etc. C'est incroyable le dramatique de ce qui se passe au Nicaragua.
Oui, c'est intéressant aussi cette question de qui est le peuple et qui est-ce qui va se retrouver à la place du peuple. Comme j'avais dit, bon, le peuple, c'est souvent comme ça qu'on désigne la minorité agissante, qui n'est pas forcément d'ailleurs faite que de prolétaires. Hein. Dans la liberté qui est dans le peuple, on voit le bourgeois avec son haut de forme qui est à côté du gavroche et de l'ouvrier. Effectivement, en 1830, la révolution a été aussi menée par la bourgeoisie et même par quelques nobles éclairés comme Lafayette. Bon, mais effectivement, cela dit, seule une infime partie des Français a évidemment participé aux Trois Glorieuses, même si l'autre s'en est finalement assez bien accommodé. Et on retrouve le même problème avec beaucoup de mouvements révolutionnaires du XXe siècle, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une minorité agissante qui se voit en avant-garde du peuple, et alors que parfois les masses sont ou attentistes ou hostiles, Che Guevara s'en est rendu trop tard en Bolivie, évidemment, qu'il était finalement malvenu parmi les masses paysannes de Bolivie, ou alors les masses sont peut-être plutôt d'accord, c'était le cas en 1979 au Nicaragua, où il y avait quand même un front commun assez large, allant bien au-delà des ouvriers et des paysans pour renverser la dictature de Somoza. Mais évidemment, les sandinistes, comme les castristes en 1959, n'étaient que quelques milliers, et ils avaient un recrutement très particulier, comme j'ai dit, très masculin, très blanc, avec beaucoup d'étudiants, d'avocats, de médecins comme Che Guevara l'avait été lui-même, etc. Et le gros problème, c'est qu'une fois au pouvoir, il y avait le risque de confisquer le pouvoir du peuple au sens du corps civique, voire du peuple au sens des classes populaires. Et certes, bon, il y a eu beaucoup de bonnes choses faites par les Sandinistes dans les années 80, mais il y a eu aussi des moments de dérive autoritaire et de déception où certains, parmi les Indiens, parmi la classe ouvrière, parmi les anciens révolutionnaires eux-mêmes, ont fini par rompre. Alors c'est vrai que Daniel Ortega a eu pendant très longtemps le prestige d'être celui qui avait résisté à Reagan et aux Contras, et que bah, malheureusement, il a tout fait depuis son retour au pouvoir, pour donner, et surtout ces dernières années, pour donner l'impression que finalement Reagan n'est peut-être pas complètement tort. Enfin, c'est atroce à dire, mais on se retrouve avec quelqu'un qui certes a fait, bon, après être revenu au pouvoir légalement, a fait certes des réformes sociales et sociétales dont beaucoup sont parfaitement légitimes et ont marqué un progrès. Il a pu aussi s'appuyer sur un bon bilan économique et social au moins au début, mais il y a eu ensuite une dérive autoritaire bah, que vous avez bien décrite, qui est très loin des idéaux affichés initialement. Et ajouter à ça que, ben, sous prétexte qu'il n'existe qu'un seul impérialisme, celui des États-Unis, le Nicaragua est quand même un des seuls États à l'ONU qui vote avec la Russie, à l'heure actuelle, sur les questions ukrainiennes. Il ne se contente pas de s'abstenir comme d'autres, il vote avec ce que seuls quelques pays ont fait, comme la Syrie, la Corée du Nord, la Biélorussie, bon, c'est l'Érythrée, un des États les plus fermés du monde. Évidemment, si c'est pour se retrouver là, bon, on comprendrait presque les contre-révolutionnaires des années 80. Donc ça fait évidemment très mal, et c'est là où effectivement l'idéal de la révolution au nom du peuple, même si Daniel Ortega n'est pas exactement un populiste au sens du chavisme bolivarien ou autre, ben, peut effectivement se retrouver par une tyrannie exercée sur le peuple et finalement au détriment du peuple. Alors certes, le peuple a aussi gagné des choses ces dernières années, il y a eu vraiment des progrès, mais d'autres populistes de droite ou de gauche peuvent aussi se prévaloir d'un bilan économique et social qui n'est pas si mauvais que ça, ce qui n'empêche pas une dérive au niveau des libertés publiques ou de certaines mesures. En Turquie, jusqu'à une époque récente, Erdogan coïncidait avec non seulement un renforcement de la position diplomatique de la Turquie, donc qui plaît quand même à un peuple qui a son patriotisme ou son nationalisme, mais Erdogan, c'était aussi une très nette augmentation du niveau de vie, un boom économique, etc., jusqu'à une date relativement récente. La contrepartie, ça a été évidemment non seulement l'autocratie, le populisme islamiste, mais également la dérive vers un État de plus en plus autoritaire et de moins en moins laïque. Donc ça aussi, c'est le problème. Le tyran peut favoriser le peuple, c'est vrai qu'il a bien aidé, ça ne marche parfois qu'un temps. Et puis également, il le favorise, mais il le conduit aussi insensiblement vers des mesures qui ne sont pas forcément toutes progressistes et qui ne sont pas qui ne sont encore moins libérales. Ça reste finalement le défaut principal du tyran, c'est qu'il prive le peuple de sa liberté. Quand bien même ce serait pour son bien, ce n'est pas acceptable.
Suivant ce que vous venez de déclarer sur le populisme et l'islamisme, quel rapport on peut faire entre la religion et la politique du point de vue du populisme?
Il peut y avoir des populismes qui évidemment sont parfaitement laïques et autres. Il peut y avoir des populismes qui sont tout à fait, par ailleurs, instrumentalisent la religion à des fins identitaires, c'est-à-dire en gros, un certain nombre de populistes se déclarent, se réfèrent à la religion, mais uniquement en tant qu'elle est un constituant de l'identité nationale, enfin l'identité nationale telle qu'elle est fantasmée, reconstruite, etc. C'est comme ça qu'on a vu des hommes venus de la gauche et de l'extrême gauche et qui étaient profondément laïcs, voire laïcards, entre guillemets, qui sont passés au Front National ou à l'extrême droite, le courant qui est quand même historiquement le plus hostile à la laïcité et qui ne s'intéresse à la laïcité que lorsqu'elle s'applique aux musulmans, bien sûr, tandis que d'autres, c'est l'inverse, la laïcité, c'est pour tout le monde, sauf pour les musulmans, bon, c'est pas non plus toujours mieux. Et parfois, ils se retrouvent même, ces ex-laïcs, à trouver que finalement, les crèches en mairie, c'est pas si mal, du moment que c'est un symbole d'identité nationale contre l'islam. Bah, évidemment, non seulement c'est limite blasphématoire, parce que bon, le Christ n'est pas venu donner une identité aux gens, encore moins une identité qui serve à s'opposer à son prochain ou à l'exclure, mais en plus, évidemment, ça pose quand même quelques problèmes du point de vue de la loi de 1905. D'autre part, de même que Donald Trump, c'est probablement le premier président athée ou fort peu croyant de l'histoire américaine. On ne peut pas être sûr qu'il ait jamais ouvert la Bible, même s'il a prêté serment dessus. De toute façon, on ne sait même pas des fois si c'est lire. Mais en plus, s'il a pris un vice-président qui lui incarnait la droite religieuse, c'était bien justement parce qu'ils étaient complémentaires. Tout le monde sait très bien que Donald Trump se moquait complètement des questions de mariage homosexuel ou d'avortement, et pourtant il a réussi là où même George Bush n'aurait pas osé espérer réussir, c'est-à-dire à avoir la Cour suprême conservatrice qui remet en cause finalement des avancées historiques. Et par ailleurs, dans le cas de l'islamisme, même lorsque l'islamisme n'est pas populiste, on constate qu'il recrute aussi, dans les pays musulmans et pas que, dans les zones périphériques qui ne veulent pas que, qui se sentent exclus, abandonnés, tout ce qu'on veut, et qui par ailleurs n'ont pas envie que les choses changent. À Damas ou à Alep, on préfère encore Bachar el-Assad, même quand on ne l'aime pas, à l'idée de voir les islamistes au pouvoir, parce que ces islamistes qui recrutent dans les banlieues peuplées souvent de ruraux fraîchement déracinés, qui recrutent dans les zones périphériques et tout, bah, ils veulent pas simplement. Ce qu'ils rejettent aussi, c'est l'ouverture au monde, hein, c'est les évolutions de société, alors que bon, quels que soient ses défauts, Bachar el-Assad n'a jamais forcé personne à porter le voile. Malgré tout, en Turquie, même. En Turquie, la gay pride peut encore se tenir de temps en temps à Istanbul. Bon, même si Erdogan aimerait bien le contraire, mais ses électeurs, eux, aimeraient bien que ça disparaisse, ainsi de suite. Donc là-dessus, les islamistes peuvent être l'équivalent, même quand ils ne sont pas populistes comme Erdogan, peuvent être l'équivalent des populistes par leur géographie, par leur rejet de l'autre. Les chrétiens, les juifs, les femmes, les évolutions de société, etc. Et évidemment, ça explique pourquoi une partie des populations adhère à leur discours et à leur pratique, comme une autre partie a peur.
Oui, une question naïve. Dans la mesure où enfin, vous avez mis en évidence les limites de ce qu'on appelle le populisme de droite et les limites du populisme de gauche, je me pose la question que serait une partie politique qui pourrait, être indemne de ces limites?
Ça, c'est une bonne question. On a même parfois parlé de populisme de centre, c'est vous dire un peu. Bon, en 2017, il y a eu un article du Monde sur Emmanuel Macron comme populiste d'extrême centre, c'est assez rigolo. Alors, à ceci près qu'évidemment, on peut difficilement l'accuser de flatter le peuple ou d'être contre l'Europe ou contre les élites, quand même. Enfin, cela dit, il a quand même bien aussi, jouer en partie la base contre les anciens partis et tout. De même qu'il n'aime pas trop les corps intermédiaires, notamment syndicaux, ça, c'est pas un secret d'État. Il peut d'ailleurs dire qu'après tout, les syndicats n'ont pas été évidemment élus au présidentiel. Bon. Mais indépendant de ça, comme j'ai dit, la synthèse pour reconquérir les catégories populaires qui sont quand même effectivement, sauf au Brésil, les premières à voter pour les populistes, c'est parfois d'essayer de faire plus à droite donc sur les questions de société, sauf que ça voudrait dire par exemple renoncer en bonne partie à l'écologie, parce que bon, que les classes populaires soient très peu attirées par le bio qui est pour l'instant plutôt associé aux groupes sociaux éduqués, relativement aisés, jeunes, moyens, bon, c'est pas un secret. Qu'évidemment, dans les périphéries, dans le monde rural, on n'aime pas trop l'écologie, on aime bien la voiture, etc., c'est pas un secret non plus. Donc un parti de gauche qui voudrait vraiment plaire aux catégories populaires serait obligé ou bien de convertir les classes populaires à l'écologie, et là, bon courage, on a pour des décennies, et pour tout un discours, ou bien serait obligé d'y renoncer, donc de se trahir en bonne partie lui-même. Il devrait également, alors c'est ce que certains ont essayé de faire en Allemagne, il devrait également se déclarer en faveur d'une politique migratoire très stricte. C'est arrivé en Allemagne, et après tout, le mouvement ouvrier, pendant très longtemps, a été xénophobe, de même qu'il a été contre le travail des femmes, au motif que le travail des femmes était un complot du patronat pour faire baisser les salaires. C'est encore le discours d'Éric Zemmour qui, de ce point de vue-là, se considère comme de gauche. Bon, bref. En Allemagne, c'est arrivé que certaines personnalités quittent la gauche radicale pour fonder un parti qui se déclarait notamment très fermement anti-immigration, au motif qu'après tout, l'immigration ne fait que livrer de la main-d'œuvre bon marché au patronat, donc que c'est être de gauche d'être contre l'immigration et qu'en plus ça fait baisser les salaires des nationaux. Bon, évidemment, on imagine aussi les dérives potentielles. Au Danemark, le Parti social-démocrate avait aussi décidé d'avoir un discours très ferme en matière de sécurité, d'immigration et autres. C'est allé jusqu'à confisquer les bijoux des migrants. Est-ce qu'on a vraiment envie de ce genre de solution et de se retrouver finalement à faire la politique des populistes de droite sans même avoir besoin qu'ils soient au pouvoir? C'est un vieux problème. Hein. De l'autre côté, il y a des choses que le Parti social-démocrate ne fera pas et que les populistes de droite, eux, feraient en plus. Bon. Et puis par ailleurs, sur le plan social, entre guillemets, les classes populaires sont quand même souvent plus à gauche, Si les partis de droite classiques ont été largement abandonnés par la classe populaire, c'est parce qu'ils ne proposaient pas ou ne semblaient plus proposer assez en matière sociale. On a vu l'échec de François Fillon en 2017, qui, à part les affaires, tenait au fait qu'il n'y avait aucune mesure sociale dans son programme, uniquement de l'austérité. C'est pas dans les classes populaires qu'on trouvait ses partisans. Alors que Marine Le Pen pouvait proposer, évidemment, des mesures sociales, plus ou moins réalistes ou pas, mais bon, c'est un autre problème. Mais qu'elle proposait aussi, évidemment, la fermeté absolue en matière de sécurité, etc. Bon. Donc, arriver à cette synthèse où on propose à la fois plus en matière sociale, moins en matière sociétale et beaucoup plus rigoureux en matière régalienne, tout ça sans franchir l'horismos, c'est-à-dire sans franchir la limite au-delà de laquelle un objet n'est plus lui-même, c'est quand même compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, contrairement à beaucoup de populistes, Marine Le Pen s'est plutôt déradicalisée en multipliant les concessions pour être acceptable, mais elle sait très bien qu'il y a des limites qu'elle ne peut pas franchir. Le jour où elle finit par dire, comme l'ancien parti néo-fasciste des années 90, qu'elle se rallie par exemple à l'immigration, le FN n'est plus lui-même et devient un simple parti de droite et il disparaît. C'est ce qui est passé en Italie. L'ancien parti néo-fasciste a tellement voulu se modérer qu'il a fini par se dissoudre à la droite classique et par disparaître purement et simplement. À un moment, il avait franchi l'horismos. Et inversement, si à gauche, certains veulent aller trop loin pour donner satisfaction aux classes populaires, ils vont se retrouver à franchir l'horismos et à devenir finalement une espèce de caricature des populistes de droite. Et en plus, le créneau est déjà pris, donc ça ne sert à rien. C'est comme en économie, ça ne sert à rien de venir s'installer sur un créneau qui est déjà pris. Vous n'aurez pas de plus de part de marché. Et l'original sera toujours préféré à la copie, comme dit. Donc là-dessus, la synthèse reste très délicate, et en plus, du point de vue de l'efficacité électorale, peut-être serait-elle souhaitable, mais n'y a-t-il que l'efficacité électorale dans la vie? C'est ça aussi le problème, dans la vie politique. Et comment ne pas finalement se perdre soi-même tout en regagnant ce qu'on a perdu? En tout cas, il est certain que sous la pression des populistes, il est arrivé à beaucoup de partis, de gauche ou pas, d'infléchir leur discours. Ou par exemple, pour reconquérir le vote ouvrier perdu, Joe Biden a bien dû promettre, par exemple, des mesures de protectionnisme. Bon, de même qu'à certains égards, il a dû promettre plus de fermeté sur l'immigration. Alors ça n'a pas forcément que des mauvais côtés. Après tout, quand Donald Trump déchire certains traités de libre-échange, ça ne déplaît pas forcément aux altermondialistes, par exemple. Mais malgré tout, il y a toujours un risque, finalement, de se retrouver à singer ce que l'on prétend éviter.
Est-ce que la montée des populismes peut être liée? C'est une question très générale et très bateau. La montée des populismes peut-elle être liée directement ou indirectement à la défaite des partis classicistes qui se basent sur les classes?
Bah oui, c'est ce que j'ai dit à un moment, c'est que les classes étant en bonne partie décomposées, les partis politiques qui s'y identifiaient plus ou moins se sont retrouvés en crise. Alors c'est très net pour le parti communiste, mais pas que. À un moment donné, quand on n'est plus vraiment de monde ouvrier au sens ancien du terme, quand les paysans sont devenus des agriculteurs et ne sont plus qu'une minorité, quand les ruraux ne sont plus ceux d'avant, mais souvent des néo-ruraux, quand les artisans et les commerçants ont quand même bien changé. Puis surtout, avant, ce qui faisait la force du Parti communiste puis du Parti socialiste, c'était, comme en 89, l'alliance entre la majorité de la classe ouvrière, très nette, et... une partie des ruraux, car il a quand même toujours existé des campagnes rouges ou roses, et une partie de la bourgeoisie éclairée, ou de la petite bourgeoisie éclairée, c'est-à-dire notamment les enseignants, bien sûr, mais aussi un certain nombre d'employés, de fonctionnaires, d'intellectuels, bien sûr, très nombreux, et cette alliance a quand même fait les beaux jours de la gauche à une époque. Sauf qu'aujourd'hui, les intellectuels, non seulement sont peut-être moins à gauche en moyenne qu'autrefois, les journalistes aussi, mais en plus, il y a un divorce entre les aspirations de l'intelligentsia, si on veut, et celles des catégories populaires. C'est dans l'intelligentsia et dans les classes moyennes supérieures qu'on trouve le plus de gens qui sont, par exemple, accueillants pour les migrants. Et c'est dans les classes c'est là qu'on voit le plus de dénonciations des lois sur l'immigration, par exemple. Et c'est dans les classes populaires qu'on voit la plus nette hostilité à l'immigration, légale ou illégale. C'est très net comme divorce. Et vous trouvez la même chose avec d'autres sujets. Évidemment que ce n'est pas dans les classes populaires qu'on s'intéresse beaucoup à l'écriture inclusive. Ou encore que ce n'est pas forcément dans les classes populaires qu'on s'intéresse le plus à l'écologie. De même qu'il y a un décalage entre la vision diabolisée qu'on se fait de la police dans certaines formations chez certains intellectuels de gauche, et le fait que dans les classes populaires, on est souvent les premiers à être soucieux de la sécurité. Et d'ailleurs, c'est assez frappant, mais en 4 ans, Donald Trump avait quand même réussi à augmenter le nombre de voix gagnées, donc il a quand même gagné 11 millions de suffrages. Bon, certes, le Parti démocrate en a gagné 13 ou 14 dans l'intervalle, encore plus, mais on a constaté que le vote Trump avait augmenté dans les minorités, notamment dans la minorité afro-américaine, en dépit de toutes les horreurs qu'il avait pu asséner. Pourquoi ? Parce que quand il y a des appels... quand il y a des appels à dire qu'il faut dissoudre la police ou qu'il faut lui couper les vivres ou à dire que Black Lives Matter, les faits sont têtus là aussi, comme aurait dit Marx. La plupart, non seulement des Blancs, mais des Afro-Américains, savent très bien que 90% des Afro-Américains qui trouvent une mort violente aux États-Unis le trouvent de la main d'autres Afro-Américains, à cause de la violence dans les ghettos. Même je ne veux pas dire des bourgeois, mais même des... des urbains éclairés savent très bien que s'ils mettent les pieds dans un ghetto, ils sont en danger de mort. Bon, en tout cas en danger pour la sécurité et autres. Sauf qu'eux, ils vont le dire, eux, ils le reconnaîtront tout bas en privé, Donald Trump, il va le claironner tout fort. Et ce décalage, finalement, entre le discours, disons, d'une bonne partie des médias, des intellectuels ou des classes aisées plutôt lénifiant, et la réalité passe très mal et explique que même chez les Afro-Américains, il y a eu une poussée du vote Trump. Alors certes, ça veut dire qu'il est passé de 8 à 12% du vote afro-américain, c'est limité, mais ça fait quand même 50% en plus. Donc ça veut dire aussi quelque chose. De la même manière que, on voit maintenant les partis populistes qui de plus en plus réussissent à avoir des voix chez les femmes, chez les homosexuels, chez les jeunes, voire chez d'anciens immigrés, parce que notamment ils se posent en garant, ou chez les juifs, parce qu'ils disent, en face on vous a abandonné à l'antisémitisme, au sexisme, à l'homophobie des étrangers et des musulmans, nous on va vous protéger. Alors qu'historiquement c'est le courant le plus anti-tout que l'on puisse imaginer. Donc tout ça a quand même considérablement contribué à l'échec, outre la décomposition des classes sociales, qu'il y a eu des chassés croisés, ce qui rappelle un peu dans les années 30, lorsque la droite est devenue pacifiste et que la gauche est devenue s'est fait accuser de bellicisme, par exemple. Ou que par souci du pacifisme, certains se sont retrouvés collaborateurs, c'est-à-dire soutien du régime le plus belliciste qui soit. On retrouve les mêmes problèmes aujourd'hui avec la notion de peuple, de laïcité, de défense des minorités, où finalement... on se retrouve avec des passages, des évolutions individuelles ou collectives qui sont pas moins stupéfiantes et avec des thèmes qui finalement changent de camp. Ceux qui ont passé 2 ou 3 siècles depuis les Lumières à stigmatiser les religions et l'Église catholique se retrouvent les plus complaisants avec la religion qui, pour l'instant, présente en proportion le plus d'adhérents à des idées rétrogrades, voire terroristes. Évidemment que ça suffit à jeter dans les bras des populistes de droite, à tous ceux qui considèrent qu'eux seuls ont la solution, quand bien même ça s'accompagne d'une malveillance islamophobe, même d'une paranoïa vis-à-vis de l'islam, qui aggravera les problèmes au lieu d'arranger quoi que ce soit. Donc là-dessus, on n'est pas sorti de l'auberge, évidemment, c'est sûr. Oui, deux ou trois fois, oui.
Quelle est votre position par rapport à ça ?
J'ai pas compris la question.
Vous avez cité plusieurs fois Pierre-André Taguieff.
Oui.
Est-ce que c'est un simple circonstance ou est-ce que c'est parce que vous avez des...
C'est juste qu'il a écrit 2 ou 3 ouvrages sur le populisme, qui sont un peu utiles pour faire le point sur la question. Après, évidemment, on peut dire qu'avec ses livres, tout le monde en prend un peu pour son grade, c'est-à-dire qu'il s'en prend aussi bien aux populistes de droite qu'aux populistes de gauche, et qu'il s'en prend aussi à ceux qui ont essayé de combattre le populisme, qui, à ses yeux, l'ont mal fait. Donc on peut dire qu'il épargne personne, mais en dehors de ça, évidemment, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'il dit, mais néanmoins, il fait quand même bien le point sur la question, et il faut au moins savoir que ces ouvrages existent.
Merci encore.